dans la cour des grands. Une émission réalisée par les élèves du collège Jacques Prévert de Pont-Vallin. Bienvenue dans la cour des grands. Cette semaine, on se retrouve pour échanger autour de la cartographie. Nous sommes sur le plateau en compagnie de Monsieur Mignot, professeur d'histoire-géographie, qui aborde avec les élèves de 6e notre manière d'habiter la ville aujourd'hui, avec tous les problèmes pour se déplacer, pour se nourrir, pour s'alimenter et pour trouver un logement. Il demande aux élèves d'inventer une ville idéale où il ferait bon vivre. Elle est représentée sous la forme d'une carte. Monsieur Mignot, bonjour.
Bonjour.
Nous aurons l'occasion, au cours de cette émission, de parler de votre démarche et des utopies urbaines. Nous sommes également en compagnie de Monsieur Chauveau.
Bonjour.
Bonjour. Professeur de mathématiques, et vous allez intervenir par rapport à la sortie intercollège qui aura lieu entre le collège de Pont-Vallin et le collège de Maillé, avec la discipline des mathématiques et l'invention d'un pays imaginaire sur le globe terrestre.
Oui, c'est ça, avec le LUD aussi.
Avec les élèves de 6e.
6e.
Avec moi sur ce plateau pour poser des questions, nous avons Kenzo. Bonjour Kenzo.
Bonjour.
Et à la régie, Lila Perle et Lilou, qui nous font un coucou.
Bonjour Monsieur Mignot.
Bonjour.
Pourquoi vous avez mis ce projet en place?
Alors déjà, j'ai mis ce projet en place d'abord parce que ça fait partie des programmes scolaires pour la classe de 6e. En 6e, on doit réfléchir à quoi pourrait ressembler la ville du futur, la ville de demain. Et du coup, il y a plusieurs façons d'aborder ça. On pourrait aborder ça avec un cours classique, mais on peut aussi l'aborder, on pourrait l'aborder en faisant une maquette, par exemple. Moi, j'ai plutôt choisi de l'aborder à l'aide d'une carte.
Depuis quand vous faites cette activité?
Alors, c'est une activité que je fais depuis, 5-6 ans, je crois. À peu près depuis que ça doit même faire un peu plus maintenant, ouais, depuis que les programmes ont changé, donc 7-8 ans. J'ai modifié un petit peu certaines choses pour essayer d'améliorer un petit peu l'activité pour les élèves, mais sinon ça fait un petit moment que je la travaille, ouais, et que les élèves la travaillent.
Pourquoi vous faites ça avec les 6e et pas les autres classes?
Je trouve qu'en 6e, au-delà du fait que ce soit dans les programmes, donc c'est obligatoire pour moi d'enseigner ça, je trouve qu'en 6e, il y a encore pas mal d'imagination, pas mal d'originalité sur les cartes, qu'on aurait peut-être un peu moins dans les classes supérieures, peut-être un peu moins en 5e, en 4e et en 3e. Donc je trouve ça toujours assez intéressant ce que les élèves de 6e arrivent à produire. Alors parfois, il faut canaliser un petit peu parce que ça part un peu dans tous les sens, mais il y a souvent de bonnes idées.
Et à quoi sert une carte pour
Alors dans cette activité-là ou en général?
En général.
Alors une carte, ça sert d'abord à se repérer, ça sert à connaître l'espace qui nous entoure. C'est en fait une carte, c'est une réduction de la Terre. Enfin, ça dépend de l'échelle, mais c'est une réduction d'un espace. Et comme on ne peut pas voir un pays, par exemple, dans son ensemble, eh bien, pour voir sa surface, pour se repérer sur cette surface, on a besoin d'une réduction. Et cette réduction, c'est une carte. Donc c'est un outil très important pour se déplacer, pour se repérer dans les lieux, pour connaître les lieux dans lesquels on vit. Et je pense que c'est essentiel de savoir lire des cartes, parce qu'on en voit beaucoup, on en voit dans les journaux, on peut en voir à la télévision, on peut en voir à plein d'endroits différents, mais on ne sait pas toujours les lire correctement. Et savoir lire une carte, c'est avoir un petit peu un avantage, à mon avis, sur ceux qui ne savent pas les lire. Donc c'est important que les élèves en 6e et puis ensuite continuent à apprendre à lire et à faire du coup des cartes.
Alors là, on parle de la géographie à l'état pur. Mmh. Ceci dit, les cartes, on les utilise dans plein de domaines. Là, nous sommes aussi avec un professeur de mathématiques. Kenzo, dans ton cours de français, vous utilisez la cartographie pour s'orienter dans le parcours littéraire avec Madame Moreau.
Oui.
Oui, c'est ça.
On en fait aussi en maths. Pour faire de la géométrie ou des choses comme ça.
Voilà. Donc, dans quel domaine la carte peut être utilisée? On parle aussi de carte mentale, par exemple. Où est-ce qu'on utilise les cartes? Donc, je vous pose la question à tous les deux. Hein.
Donc, bah, effectivement, on fait un peu de repérage aussi en mathématiques. Donc, on peut utiliser des cartes pour se repérer. Cartes mentales, effectivement, pour les révisions. Hein, chaque élève crée des cartes mentales qui personnelles qui peuvent l'aider dans ses révisions. Sinon, dans d'autres endroits, je ne sais pas.
Après, je pense que ouais, c'est dans la plupart des matières. C'est vrai que la matière par excellence pour la cartographie, c'est plutôt la géographie. Oui. Donc je rejoins ce qui a été dit. On est à la fois dans le repérage et aussi dans la construction de cartes. On peut être aussi sur des activités de transformation. On transforme des textes en cartes. On part de photos et on crée des cartes à partir de ces photos. L'essentiel, c'est vraiment que les élèves soient en contact très souvent, très fréquemment avec des cartes. Et qu'ils soient pas seulement, à mon avis, consommateurs de ces supports, mais qu'ils soient un petit peu créateurs, qu'ils créent leurs propres cartes. Par exemple, carte mentale, effectivement, c'est ça aussi, c'est représenter ses idées dans l'espace. Donc à partir du moment, je trouve, où ils créent leurs propres cartes, ils vont mieux maîtriser tout ce vocabulaire qui est parfois un peu complexe.
Alors justement, on vous a demandé de ramener chacun des cartes. Donc on commence par les vôtres, Monsieur Mignot.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on voit sur les cartes? Sur quels axes de réflexion les élèves travaillent? Je vois qu'il y a des pictogrammes, il y a une légende. C'est assez artistique. Ouais. Il y a des choses assez variées, assez jolies. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous décrire ces cartes?
Bien sûr. Alors, on part sur une légende qui est préorganisée, c'est-à-dire que j'ai guidé les élèves autour de quatre thèmes pour la ville de demain, donc se déplacer, se loger, se nourrir et cohabiter. Donc l'idée, c'est avant d'arriver à cette carte, c'est qu'on a fait un cours dans lequel on a identifié un certain nombre de problèmes dans la ville actuelle. Donc problèmes pour le logement, pour les déplacements, pour la nourriture, donc ça va de problèmes de pollution, de malnutrition, etc. Enfin, voilà, tout un tas de soucis qu'on peut trouver dans les villes du monde actuellement. Et donc à partir de ces problèmes, l'objectif est de trouver des solutions pour les élèves, si possible un maximum de solutions. Solutions qui soient envisageables dans un futur, on va dire, proche, de 50 ans à peu près. Et solutions surtout qui puissent se représenter de manière cartographique, à l'aide justement d'un figuré. Donc on a à la fois un travail sur les idées, mais après c'est vrai que ces idées, il faut arriver à les transformer en figurés, en symboles que l'on peut placer dans une légende et placer sur une carte, pour ensuite organiser tout ça sous la forme d'une ville imaginaire. Le dessin de la ville imaginaire appartient totalement aux élèves, c'est eux qui réfléchissent à ça. Alors parfois on a des choses qui peuvent être assez réalistes, et puis on a des choses qui sont très 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 imaginatives justement. On peut avoir des choses qui sont assez dessinées, et puis des choses qui sont plus de l'ordre de la géométrie. Tout ça c'est laissé à l'appréciation des élèves en fonction de ce là où ils sont à l'aise, est-ce qu'ils sont à l'aise en dessin ou pas, est-ce qu'ils préfèrent utiliser la géométrie. Donc la plupart utilisent plutôt la forme dessin, mais j'ai quelques cartes avec une forme géométrique.
Alors là, qu'est-ce qu'on a comme carte? Elle est de qui cette carte?
Alors cette carte, elle est justement de Kenzo, ici présent.
Tu veux peut-être nous la décrire alors, du coup, Kenzo? Pourquoi
peut-être
tu as fait...
Tiens, je te donne la carte.
Alors on est sur un fond bleu.
Donc le fond bleu, c'est l'océan parce que c'est une île. Plutôt une île populaire, que j'ai appelé Écoland, parce que dans cette île, il y a une grande forêt, et c'est une forêt très très grande, et aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup d'aéroports ou de choses comme ça. Par contre, il y a beaucoup d'endroits là où il y a des arbres et plein d'autres choses comme ça.
Alors comment on vient sur cette île?
On y vient par avion électrique ou simplement par bateau.
Alors qu'est-ce qu'on voit à part les arbres? Je vois, il y a du violet, il y a des routes, il y a plein de petits symboles de couleurs différentes. Qu'est-ce que c'est tout ça?
Alors le violet, c'est les immeubles, des immeubles de cohabitation. C'est-à-dire que dans ces immeubles-là, tout le monde peut y aller. Et il y a quelques immeubles qui sont gratuits pour ceux que, par exemple, qui sont dans des bidonvilles ou des choses comme ça, ils peuvent venir dans ces immeubles. Sinon, Il y a beaucoup de magasins, plus à côté des immeubles ou par exemple à côté de parcs ou des choses comme ça pour faire des pique-niques ou plein de choses. Sinon, il y a quelques petits restaurants, mais pas plus.
On est dans une petite ville sympa avec de la forêt qu'on pourrait retrouver peut-être à part les avions électriques. Qu'est-ce qui change des autres villes actuelles dans ta ville idéale ?
Ça change qu'il n'y a pas beaucoup de pollution.
Et pourquoi il n'y a pas beaucoup de pollution ?
Parce qu'il y a des lacs, il y a des arbres, il y a une forêt.
Et il me semble que tu m'avais parlé d'usine électrique.
Ah oui, c'est une usine qui ne fait pas de fumée. C'est une usine qui marche à l'électricité.
Tu aimerais vivre sur cette île ?
Je sais pas. Oui.
Est-ce que lorsque vous faites cet exercice avec les élèves, justement, ils vous parlent de comment ils voudraient vivre demain ? Est-ce que ça permet d'engager une discussion là-dessus ?
Oui, alors ça dépend un peu des élèves. Il y a des élèves qui aiment bien faire, je pense, leur travail... pas dire en secret, mais disons dans leur coin, et puis qui se disent, c'est le prof découvrira ça plus tard. Et puis j'ai aussi quelques élèves qui viennent beaucoup parler de leur projet, mais surtout en fait dans un sens pour le décrire, un petit peu ce que vient de faire Kenzo, avec un certain enthousiasme, ils sont assez contents de montrer en fait ce qu'ils ont imaginé. Et c'est vrai que nous en histoire-géographie, bon, on est une matière où c'est faisable, mais c'est plus difficile de travailler sur l'imagination. On est un peu sur les faits, les faits objectifs, les faits réels. Et donc d'avoir de temps en temps des petites activités comme ça où ils peuvent faire preuve d'imagination, c'est assez rafraîchissant pour le prof d'histoire géo en tout cas.
Moi par exemple, j'ai choisi d'être tout seul parce que en fait j'aime pas trop le travail de groupe et aussi parce que j'aime bien faire des choses mais moi-même.
Oui, mais si tu fais des choses toi-même sur une ville où on est censé habiter ensemble et qu'il n'y a que toi qui décides de l'état de la ville, est-ce que ça fonctionne ?
Oui, parce que ça fait comme si on était à deux.
T'es deux avec toi-même ?
Et puis même, ça fait la même chose parce que c'est nous deux qui réfléchissons et c'est comme si qu'il n'y avait qu'une personne qui réfléchit parce que les mêmes idées.
Dans mon île, comme on est bien. Dans mon île, on ne fait jamais rien. On se dort au soleil qui nous caresse. Et l'on paraisse sans songer à.
On va passer à Monsieur Chauveau, puis on va revenir après sur une discussion plus vaste. Est-ce que tu veux poser tes questions ?
Oui. Bonjour Monsieur Chauveau.
Bonjour.
Pouvez-vous nous présenter le projet intercollège ?
Alors le projet intercollège, il a démarré l'an dernier avec les Jeux Olympiques de Paris. Donc je travaillais à l'époque à Maillet et au Lude. Et je me suis rendu compte qu'on travaillait, je travaillais d'un côté, je travaillais de l'autre, mais on ne travaillait jamais ensemble, c'est-à-dire qu'on ne travaillait pas le Maillet et le Lude. Donc j'ai décidé de monter un projet de rencontre entre les sixièmes de Maillet et du Lude. Et comme je connaissais bien les collègues de Pont-Vallin, j'ai demandé aux collègues de Pont-Vallin s'ils voulaient se joindre à nous. Le principe, c'est que chaque classe est divisée en quatre. Ça fait des groupes de 5 à 7 élèves. Et chaque groupe de 5 à 7 élèves crée un pays imaginaire. Ce pays imaginaire est mis sur une carte, justement. Donc là, on n'est pas totalement dans l'imaginaire, puisqu'on part d'une carte qui existe. Par exemple, là, je ne sais pas, c'était peut-être les 6 blancs l'an dernier de Pont-Vallin, sont partis sur l'Océanie. Ils ont créé un pays. Alors, bien sûr, ils l'ont placé ailleurs. Ils ont créé un pays imaginaire qu'ils ont construit sur la carte. Et ils ont travaillé dessus, sur ce pays. Donc, dans différentes matières, en mathématiques, sur la surface, grâce à l'échelle. En histoire-géographie, ils peuvent travailler sur une carte d'identité du pays. Ils peuvent travailler sur le régime politique du pays, la météo qui correspond à peu près au continent où on est. Et donc, ils ont travaillé là-dessus pendant quelques mois. Et au mois de mai, l'an dernier, on s'est tous réunis. Tous les sixièmes sont réunis à Pont-Vallin, de Maillet, du Lude et de Pont-Vallin, pour des rencontres sportives et interdisciplinaires. Alors c'est vrai que ce projet implique beaucoup d'autres matières. Donc là, on a parlé d'histoire-géographie. Éventuellement, quand on aura fini les cartes d'ici peu, je donnerai tout à M. Mignot, qui pourra faire une carte d'identité du pays. On peut parler du régime politique, on peut parler du climat, on peut parler de la population, on peut parler pas mal de choses, hein, la végétation, par exemple. Et le jour de la venue au collège, eh ben, y a des épreuves sportives. L'année dernière, il faisait du basket, de ultimate, il faisait du badminton, des épreuves de mathématiques, de français, d'anglais, d'histoire-géographie. Donc ça impliquait quand même beaucoup de disciplines.
Et qu'est-ce que l'on fait lors de ces épreuves ?
Alors, ce sera un peu un secret pour les sixièmes. Hein. Ils vont découvrir le jour, comme j'ai dit, du badminton, par exemple. Des relais où, entre les relais, on doit répondre à des questions de mathématiques ou d'histoire-géographie, hein, pour gagner du temps, hein, un peu comme du biathlon. Tu connais le biathlon ?
Non, pas trop.
Non, bon, un peu comme du biathlon. Et des épreuves d'énigmes de mathématiques, des énigmes de français. Et on fait un classement, comme pour les Jeux Olympiques. Il y a une équipe qui gagne.
Et dans ce que j'ai compris, si on répond bien aux énigmes, on gagne du temps.
Oui, c'est ça.
D'accord. Et si on répond pas bien, on gagne pas de temps.
C'est ça, on perd du temps plutôt, je dirais.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler la date de cette rencontre ?
La date, c'est le mardi 2 juin, cette année, mardi 2 juin. Et on a plein de travail à faire avant, pour préparer ce jour-là.
Mais c'est du sport ou c'est que... Est-ce qu'on va courir ou on va faire...
Ah oui, il y aura 6 ateliers. Donc l'an dernier, il y avait, comme j'ai dit, ça a peut-être changé, il y avait de l'ultimate. Tu sais ce que c'est l'ultimate ?
Oui, c'est un sport de frisbee.
C'est ça. Il y avait du badminton.
On est en train de travailler ça le jeudi prochain.
Il y avait donc une course donc de sprint avec un arrêt tous les couramment pour répondre à une question. Et si on ne répondait pas, on était obligé d'attendre 30 secondes avant de repartir. Donc on perdait du temps si on ne répondait pas. Donc ça va ressembler. Et puis il y avait des ateliers au collège un peu plus disciplinaires, donc que mathématiques ou que français. Et les élèves tournent dans la journée sur ces ateliers. Ça te plaît ?
Bonne
journée ?
Oui.
De toute façon, t'as pas trop le choix.
Mais ça a vraiment bien marché l'an dernier. Hein. C'est vrai que les élèves étaient hyper contents. Ça donnait un gros travail. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on a dit qu'on va le recommencer cette année. Ce sera plus simple. Et puis les collègues sont partants pour revenir, que ce soit au Lude ou à Maillet. Les collègues sont vraiment contents de revenir.
Pour en revenir à la cartographie, par rapport à ce que vous demandez aux élèves, donc mathématiques, vous avez dit un peu décrire le pays, sa zone climatique et tout ça. Est-ce qu'on peut aussi idéaliser un pays comme on peut le faire sur la géographie, sur le projet avec Monsieur Mignot, ou c'est vraiment plus un rapport scientifique
Alors, idéaliser, c'est dit compliqué, puisque, par exemple, sur le climat, on l'a placé comme dans un lieu, donc on ne peut pas être illogique par rapport au lieu. Donc, on ne peut pas dire qu'en Océanie, par exemple, il neige tout le temps. Ce n'est pas un climat polaire en Océanie. Donc, c'est vrai qu'on reste à peu près par rapport au lieu. Oui, je fais pareil pour la densité. Par exemple, si le pays d'à côté n'a pas beaucoup d'habitants au kilomètre carré, c'est leur demander que mon pays non plus n'ait pas beaucoup d'habitants au kilomètre carré. Ça me paraît un peu plus logique. Donc, on reste un peu plus dans le réel. Bien que tout a été construit quand même. Alors, il peut y avoir, par exemple, par contre, on peut inventer le régime politique, une dictature. On peut inventer un régime, une république. Enfin, là, par contre, on a un peu plus ce choix.
D'accord. Et est-ce que, par exemple, là, vous avez la carte de l'Océanie. Et, par exemple, il y a 4 pays sur cette carte. Et est-ce que ce pays-là, on le fait tout seul ou on le fait en groupe ?
En groupe. C'est-à-dire que chaque groupe de 5 à 7 élèves se met déjà en commun. Donc là, c'est pas tout seul. Hein, se met en groupe et décide en commun donc de l'emplacement du pays, du nom du pays. Hein, par exemple, j'ai un pays qui s'appelle Patakluk. Le nom du pays, le drapeau. Donc à quoi va ressembler le drapeau ? Donc on a déjà vu avant des drapeaux qui existaient et on voit des drapeaux. Donc ils inventent leur drapeau. Après, en mathématiques, on travaille donc sur la superficie et dans d'autres disciplines aussi.
D'accord. Et pourquoi vous participez à ça en tant que professeur de maths ?
Donc, sur différents domaines, hein, sur la superficie. Donc, on travaille avec l'échelle, qui est importante sur une carte. Hein. L'échelle est très importante, hein. C'est pas M. Mignot qui va me contredire. On travaille aussi sur la construction du drapeau, savoir expliquer comment on a construit le drapeau, ce qu'on appelle en mathématiques un plan de construction. Et différents autres domaines, on peut travailler sur la population, si on connaît la densité, plein de domaines en mathématiques qui peuvent être abordés.
Et nous, le collège de Pont-Vanin, on y participe, mais il y a aussi le collège du Lude et de Maillet, mais est-ce qu'il y a d'autres collèges qui participent ?
Ah non, pour l'instant non, hein, c'est une idée que j'ai eue l'an dernier, peut-être que ça se fait ailleurs, mais c'est une idée que j'ai eue l'an dernier, donc pour les Jeux Olympiques. Mais comme ça a très bien marché, les élèves étaient super contents après leur journée au mois de mai. On a décidé de recommencer cette année. Et toi, je crois que tu commences à y participer aussi.
Oui, on a commencé déjà à la forme de notre pays et au plan.
Et ça t'intéresse ?
Oui, parce que moi je suis très créative et aussi créative, pardon. Et j'aimerais bien montrer que je peux travailler en groupe.
Alors justement, vous avez apporté aussi des cartes. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette nouvelle carte de l'Océanie ?
Alors c'est l'Océanie. Donc là, comme je ne voulais pas qu'on envahisse un pays, on a créé des pays imaginaires. Donc la plupart du temps, tout le temps, ils se retrouvent dans la mer, bien sûr. Donc ça peut être juste à côté d'un pays. Par exemple, j'ai un pays, le 3, c'est le Wellingwood, qui se retrouve juste à côté de l'Australie, mais j'ai des pays qui sont plus comme des îles, en fait. Et donc, ils les ont placés au départ sans s'occuper de la forme. Enfin, ils ont mis la forme qu'ils voulaient. Après, j'ai agrandi les pays pour qu'ils calculent, enfin, pour qu'ils, grâce à des formes simples, qu'ils calculent à peu près l'aire du pays. Et on s'est mis d'accord. On a fait le drapeau. Je leur ai montré que des drapeaux, ce n'est pas forcément très compliqué, hein, drapeau de pays. Eux, c'est plus ou moins compliqué. Donc, j'ai les quatre drapeaux qu'ils ont créés. Donc on retrouve des cercles, on retrouve des formes géométriques comme des losanges, des rectangles. Et ils devaient décrire précisément leur drapeau.
Est-ce qu'ils font le lien justement entre la cartographie en histoire-géographie et ensuite quand ils viennent faire cet exercice ?
Alors, je pense qu'ils font le lien avec l'histoire-géographie. Alors là, ce qu'ils n'ont pas fait, c'est des cartes de Pont-Valin que j'ai sous la main. Quand j'étais au LUD, j'avais demandé à ce qu'ils mettent le nom des pays limitrophes sur la carte. Ça leur permettrait de faire vraiment un lien du lieu où ils plaçaient leur pays. Donc effectivement, ils font forcément un lien, c'est des cartes qui existent, ils ne pouvaient pas faire n'importe quoi non plus. Au début, ils voulaient effectivement placer les pays à l'intérieur de d'autres pays, mais ça faisait, je trouve, comme envahir un pays. Et puis avec l'actualité actuelle, c'est peut-être pas extraordinaire.
Là, je vois, du coup, ces pays-là, il y en a, ils sont symétriques, et il y en a, ils ne sont pas symétriques, mais pourquoi est-ce qu'on est obligé de faire des pays symétriques ou on peut faire tout ce qu'on veut ?
Alors, comme disait M. Mignot tout à l'heure, c'est qu'il y en a qui ont construit des pays vraiment à la main, sans vraiment donner de forme, et il y en a qui ont donné des formes un peu plus géométriques, effectivement, avec des côtes un peu plus droites, avec une règle, ce qui n'est pas forcément mieux ni moins bien. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ça marche bien, et puis c'est vrai que, comme on disait tout à l'heure, les sixièmes sont quand même des élèves motivés en général pour ce genre de projet. Hein. Ils sont partants pour tout, ils sont contents de faire, ils sont contents d'imaginer, ils ont de l'imagination, et ça marche vraiment bien. Enfin, moi, ça fait un an que ça marche, mais ça a vraiment bien marché, et je pense que cette année, ça sera pareil.
Je rejoins ce qui a été dit au niveau de l'imagination. Je suis toujours agréablement surpris, en fait, de la créativité qu'on peut avoir dans ces projets. Alors après, au niveau de la méthodologie, il y a des petites choses qui peuvent être discutées sur les choix des figurés, sur la façon de placer les aménagements. Il y a des choses qui ne sont pas toujours logiques d'un point de vue, on va dire, d'adulte. Mais on a aussi, en même temps, parallèlement à ça, à ces petites lacunes, on a souvent des idées très intéressantes qu'un adulte, justement, n'aurait peut-être pas eu.
Est-ce que vous pouvez nous en citer ?
Je sais pas, là je fais référence par exemple à la carte de Kenzo, mais c'est vrai que l'idée de placer comme ça une zone forestière complète dans une ville, ça fait partie des choses que beaucoup d'élèves font et que c'est vraiment une forêt quoi le projet, c'est pas un parc, c'est on intègre en fait complètement la nature à la ville. Donc c'est des choses qui sont en train de peut-être d'arriver dans les villes actuelles, mais on voit que pour des élèves qui ne vivent pas tellement en ville, la plupart des élèves qui sont ici vivent à la campagne, donc ils ont déjà une conscience assez nette de tout ça. Donc les choix d'aménage, enfin les choix des lieux qu'ils intègrent à leur ville sont en général bien sentis. Et derrière, il y a souvent une idée intéressante. Ce qu'a dit Kenzo tout à l'heure sur les immeubles, par exemple, est assez intéressant. Voilà, donc on voit qu'on peut être en sixième et avoir de bonnes idées pour l'avenir.
Oui, parce qu'on aborde toutes les manières d'habiter. Donc il y a le logement, il y a le transport, il y a justement la gestion des espaces verts, si je puis dire. Est-ce que les choses, est-ce qu'on retrouve un peu les mêmes idées entre les cartes, ou est-ce qu'il y a des choses qui sont très différentes, des propositions qui sont très différentes?
Alors bon, c'est très variable parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a pas mal de liberté dans cet exercice.
Au-delà de l'aspect vraiment esthétique.
En termes d'idées, donc moi je guide, on va dire que je guide beaucoup jusqu'au début de la carte, c'est-à-dire l'identification des problèmes, et puis quand même on fait travaux de groupe aussi pour essayer de mutualiser quelques solutions entre les élèves qui ne soient pas démunis, parce qu'il y a aussi des élèves qui ont un peu moins d'imagination, qui ont un peu plus de mal à trouver des idées. Donc du coup, il y a quand même ces petites phases de mise en commun qui font qu'on va retrouver un certain nombre de choses, puisque ça a été partagé en classe. Tiens, toi, tu as cette idée-là, elle est pas mal, je vais la reprendre, etc. Mais on a aussi une part personnelle. Je pense que c'est ce que Kenzo disait tout à l'heure, c'est qu'on a aussi une volonté parfois de faire un peu sa carte personnelle, que les autres n'auront pas forcément vue, ou pas, ils n'auront pas connaissance de toutes les bonnes idées qu'il y a dedans. Et puis ça s'accompagne aussi d'un... Donc il y a un travail en classe, et puis il y a un travail possible à la maison pour ceux qui le souhaitent, pour, on va dire, étoffer la carte et lui apporter encore plus d'informations. On peut avoir des élèves qui vont vraiment mettre beaucoup d'aménagements autour de l'environnement. On peut en avoir qui vont mettre beaucoup d'aménagements autour du vivre ensemble, de l'entente qui peut exister dans la ville. C'est différentes approches, en fait. Chaque élève va apporter, je pense, ses idées, son originalité à son projet. Et c'est ça qui est intéressant, à mon avis.
Est-ce qu'on pourrait la faire à trois ou... Alors pour
le fonctionnement, on va dire, technique de la carte, c'est moi ce que j'impose, c'est soit une carte tout seul ou à deux. Parce que j'avais déjà fait, au tout début, je laissais le choix du groupe, mais c'est vrai que c'est plus compliqué de s'organiser à trois ou à quatre pour réaliser une carte. Deux, déjà, ça demande pas mal d'organisation, justement. Et puis... d'être capable de bien s'entendre pour réaliser la carte. Donc je dis bien aux élèves, quoi, s'ils la font à deux, il faut qu'ils soient prêts à s'entendre, à négocier les choix, à négocier...
Je le vois, moi, sur mes cartes, parce qu'ils sont 6-7, et là, on parle de démocratie, justement. Quand ils ne sont pas d'accord, effectivement, à 6-7, je leur ai dit clairement, vous proposez plusieurs choses pour le nom du pays, et vous votez. Et on vote, la démocratie fait le reste.
Ouais. Et c'est vrai que sur une carte là, les cartes les meilleures, les meilleures, dans le sens où ce que moi j'attends, c'est-à-dire qui apportent le plus d'idées, peuvent avoir jusqu'à 40 ou 50 figurés. Donc il y a 40 ou 50 symboles différents qui vont représenter une idée à chaque fois. Donc c'est vrai que s'il faut négocier chacun de ces figurés un par un, que ce soit dans le fond, c'est-à-dire quel mot on met, et dans la forme, quel dessin on fait, est-ce qu'on met du bleu, du vert, du rose, du jaune, ça peut être très très long. Donc je leur dis bien dès le départ, si vous êtes à deux, il faut vraiment que vous soyez un peu sur la même longueur d'onde, que vous vous entendiez bien, etc. Si vous le sentez pas, il vaut mieux la faire tout seul.
Oui, parce qu'après on n'est plus sur la ville, mais on est justement sur un état démocratique.
Ouais, c'est un autre exercice, je pense. Mais cette année, je dois dire que les cartes qui ont été faites à deux, ça s'est plutôt bien passé. J'ai pas eu trop de mauvais retours d'élèves qui s'entendraient pas ou qui arriveraient pas finalement à faire le travail à deux. Ça a plutôt bien fonctionné cette année.
Je vous remercie. On va arrêter l'émission. On va être obligé de rendre l'antenne.
Merci, monsieur Chevaux. Merci, monsieur Mignot.
Merci.
Merci. Merci à vous. Cette émission se termine. Merci de nous avoir suivis sur les ondes de Radio Prévert. Vous pouvez bien sûr nous retrouver en podcast sur le site radioprévert.fr, mais aussi sur la page illico du collège Jacques Prévert. Je vous dis à la semaine prochaine dans la cour des grands.